suis vraiment heureux d'être ici en présentiel à Nouvelle-Vie-Longueuil. J'espère que vous allez bien et content d'être avec ceux qui nous rejoignent en ligne. Je suis vraiment heureux d'apporter le message aujourd'hui. C'est vraiment un privilège pour moi dans cette série « Le Dieu que tu ne connais pas ». Et dans nos sociétés, on entend beaucoup, les gens disent que justement Dieu est inaccessible. Dieu est tellement lointain qu'il est incompréhensible. J'ai même lu cette semaine quelqu'un qui disait « Je ne pense pas que Dieu existe ». Et s'il existe, je pense qu'il ne m'aime pas. Je voudrais dire que c'est totalement le contraire. Et aujourd'hui, le message, ma mission aujourd'hui, c'est de te prouver que Dieu n'est pas lointain, ni inaccessible, ni incompréhensible. Au contraire, il s'est révélé à l'humanité et il désire encore aujourd'hui se révéler à toi. Et le Dieu que tu ne connais pas, il peut être connu et il veut se faire connaître à toi aujourd'hui. Si tu as déjà eu des questions sur Dieu, qui il est, qu'est-ce qu'il veut de moi ? Aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu veut plus que toi se révéler à toi, plus que toi répondre à tes questions existentielles. Et je crois que Dieu le fait à travers son Église encore aujourd'hui par la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu veut se révéler à toi. Et ce n'est pas un hasard si tu es là, si tu es peut-être là invité par quelqu'un, si tu es peut-être là curieux peut-être de chez toi en train de regarder en disant « je ne sais pas ce qu'ils disent à l'Église, mais je vais faire un tour ». C'est un rendez-vous que Dieu avait avec toi parce qu'il veut se révéler à toi, il t'aime et il veut te dire combien il y a des projets de bonheur, d'espoir pour lui. Et tous ceux qui l'ont déjà vécu, qui l'ont rencontré et qui savent que c'est vrai que notre Dieu est bon, est-ce qu'on peut applaudir et acclamer son nom aujourd'hui pour tous ceux qui n'ont pas encore rencontré? Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Dieu a un regard différent ». Et on va regarder un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Si vous avez vos Bibles, prenez le temps de regarder Marc chapitre 6, sinon ça va apparaître à l'écran. Mais je crois réellement que Dieu a un regard différent parce que la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et on pourrait croire justement que, mais alors c'est inaccessible, si Dieu est Dieu et que nous sommes humains, alors c'est impossible de le comprendre. Oui, Dieu nous a donné la Bible, sa parole, la parole vivante, pour que nous puissions comprendre sa volonté, que nous puissions comprendre le plan qu'il a pour l'humanité, pour toi et moi. Et même si ce livre a été écrit il y a des millénaires, la parole de Dieu se révèle encore à nous aujourd'hui, quand nous l'ouvrons, le Saint-Esprit de Dieu qui est ici, sur cette terre, encore aujourd'hui avec nous, jusqu'à la fin du monde. Il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Alors il y a vraiment un côté où oui, Dieu est Dieu et nous sommes des hommes, ses pensées ne sont pas nos pensées, mais sa parole, ses plans et ses projets sont révélés à travers la Bible. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui pour voir combien parfois nos situations, on les regarde avec un regard humain, charnel, parfois complètement pessimiste, alors que Dieu a un regard différent sur nos situations. On a tous besoin d'avoir un regard, de prendre du recul parfois. Et quelqu'un qui nous voit de l'extérieur peut pointer des choses qu'on n'avait jamais vues. Ça vous est déjà arrivé? Je vous donne un petit exemple. Il y a quelques temps, on a fêté avec ma femme notre anniversaire de mariage. Cette année, ça fait 14 ans de mariage quand même. Ouais, vous pouvez l'applaudir, elle, tellement de courage. Et c'est une bénédiction. Et alors qu'on était ensemble au restaurant, on avait laissé les enfants à quelqu'un et puis on avait pris un petit week-end ensemble. Et puis ça fait du bien de prendre un petit temps juste ensemble. Et alors qu'on était là, on était à un resto, on était parti à quelques centaines de kilomètres, vraiment loin de la vie d'ici aujourd'hui. On était parti un peu se retirer et puis on était dans un restaurant. Il y avait le coucher de soleil. Je vous ai mis un coucher de soleil, comme ça vous pouvez vous imaginer avec nous. Okay, vous êtes dans l'ambiance? Oubliez les moins 5 de ce matin. On est tous au coucher de soleil dans un restaurant. On n'est pas à la même table parce que je suis avec ma femme en train de fêter l'anniversaire de mariage. Et alors qu'on est là, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. On mange, la nourriture est incroyable. Moi mon langage d'amour, c'est la nourriture. D'accord? Si vous voulez me faire plaisir, invitez-moi à manger. Mais alors qu'on est là en train de manger un super bon repas, les enfants ne sont pas là, on n'est pas en train d'essayer de ramasser la purée partout et tout ça à côté. Hein, les jeunes parents me comprennent. Et alors qu'on est là, On a le regard l'un avec l'autre, vraiment face à face. C'est vraiment un beau moment de qualité. Et puis, alors qu'on est là depuis 30, 45 minutes, on mange, on rit, on se rappelle les beaux souvenirs, on parle des enfants, tout est beau, tout est calme. À un moment donné, je vois ma femme Sophie me regarder dans les yeux, et puis je la vois être comme contemplative. Je me dis, Seigneur, merci, merci. Je ne sais pas ce qu'elle comprend en ce moment, mais c'est tellement beau. Puis elle s'arrête sur moi, et puis elle dit une phrase qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Elle dit, chérie, je te trouve vraiment beau. Même avec des rides. J'étais comme, je ne sais pas s'il faut rire pour le compliment ou pleurer. Depuis ce jour-là, je prends de la crème anti-rides 3 fois par jour. J'ai juste comme, le regard qu'elle a eu sur moi a changé mon regard sur moi. Imaginez juste si ça avait été le contraire, que moi je lui aurais dit ça. On a tous la même... J'ai dit, gars, non, je suis compassion, amour, maîtrise de soi, douceur, on ne va pas arrêter. J'ai mis de l'argent dans ce week-end, on va vraiment passer un bon moment de qualité. Mais parfois, un regard extérieur nous pointe quelque chose pour nous montrer les choses. Et je crois que la parole de Dieu aujourd'hui va nous montrer le regard de Dieu sur nous, sur qui nous sommes, sur notre situation. Et le regard de Dieu pour toi est rempli d'espoir. Parce que quand Dieu te regarde, il regarde l'espoir. Peu importe ta situation, peu importe où tu es en ce moment, Dieu est un Dieu rempli d'amour pour toi. Et ceux qui l'ont déjà vu, rencontré et expérimenté, est-ce qu'on peut l'applaudir encore une dernière fois ? On va regarder le texte justement dans Marc 6, versets 30 à 44, et on le lit ensemble. C'est le texte qui se trouve dans les quatre évangiles. Les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans le Nouveau Testament, sont les quatre textes qui montrent la vie de Jésus. C'est un petit peu comme les réseaux sociaux de Jésus à l'époque. Il y a quatre personnes qui documentent et qui voient sur tous les angles différents les mêmes situations. Mais ce texte-là, c'est le texte de la multiplication des pains. C'est un des seuls textes qui se retrouve dans les quatre. Et il y a vraiment des éléments dans ce texte qui, je crois, vont pointer notre regard sur le regard de Dieu. On va comprendre ensemble des choses pour notre vie. Dites amen si vous le croyez. On le lit ensemble. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui. Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ? Il leur dit, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Et là, le miracle prend place. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Quel texte incroyable. Si vous avez déjà été à l'église, peut-être dans votre enfance, on en parle de toutes les coutures de ce texte. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment regarder les choses qui nous frappent dans ce texte. Et avant même, quand je lisais ce texte, avant même de voir la multiplication miraculeuse qui a pris place, la première chose qui a frappé mon regard sur ce texte, c'est qu'avant même le miracle, Jésus voit cette foule et son regard, il ne voit pas une foule seulement avec plein de problèmes. Non, il voit une foule et il est rempli de compassion. Et on l'a chanté tantôt. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même regard qu'il a eu sur cette foule remplie de compassion à l'époque et le même regard de compassion avec lequel il nous regarde aujourd'hui. Et c'est la première vérité. Dieu a un regard différent sur qui tu es. Marc 6, 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut rempli de compassion pour eux. De l'extérieur, on aurait pu voir beaucoup de monde. Les disciples avaient tellement travaillé qu'ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Et là, ils étaient surbookés de travail. Et les disciples, peut-être fatigués, prennent une barque et pensent qu'ils vont s'arrêter à un moment donné et juste se reposer. Et là, ils voient une foule encore. Ils auraient pu se dire, encore une foule, encore plein de monde, encore plein de problèmes. Renvoie-les chez eux. Puis Jésus, son regard est différent. Jésus ne voit pas la foule, il voit les âmes dans la foule. Et il est rempli de compassion, rempli d'amour pour eux. Jésus avait une passion pour l'humanité et cette passion-là ne s'est pas éteinte. Oui, Jésus a vécu il y a 2000 ans, mais il est toujours, aujourd'hui, il est mort et il est ressuscité et il vit toujours aujourd'hui. Il est présent par son esprit aujourd'hui et son regard sur toi est un regard rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de douceur. Si toi, en ce moment, tu te dis, mais Dieu ne me voit pas, Dieu est tellement lointain, Dieu est incompréhensible, sache que non, le regard de Dieu est sur toi. Il te connaît par ton nom, la Bible nous dit. Et même si tu penses que tu es perdu dans la foule aujourd'hui, même peut-être tu nous regardes d'Internet et puis tu te dis, je suis chez moi, personne ne me voit. Dieu te voit. Et son regard sur toi n'est pas un regard de jugement, n'est pas un regard de condamnation. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Certaines personnes aujourd'hui disent, oui, mais j'ai entendu que Dieu était un Dieu qui jugeait, qui allait séparer le mal et le bien. Oui, Dieu dans sa sainteté, dans sa justice, fera un jour le jugement entre le bien et le mal. Ceux qui auront suivi Jésus, ceux qui l'auront renié. Oui, Jésus est là et il va être le juge, mais aujourd'hui, il est notre avocat. Et si tu respires aujourd'hui, Dieu n'est pas là en train de te condamner, il est en train de te dire, je veux te réinviter à la maison. Il y a de la grâce, il y a de l'espoir, il y a de la compassion pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui est aujourd'hui avec des yeux de compassion pour nous? Il ne voit pas juste une foule, il voit les âmes dans la foule. Il voit ceux qui sont à la recherche de vérité, ceux qui sont curieux, peut-être comme toi aujourd'hui, ceux qui sont fatigués et chargés et qui voient en Jésus l'espoir, la réponse à leurs problèmes. Il voit des brebis sans berger. La Bible nous dit que Jésus prend alors une image contemporaine. Alors qu'à cette époque-là, on ne parlait que de pâturage, les bergers, les troupeaux. Jésus prend cette image et il dit, je vois cette foule comme des brebis sans berger. Parce qu'à l'époque, le système religieux qui normalement aurait dû amener les gens à la lumière et à l'amour de Dieu, en fait, les oppresse. Alors les bergers qui sont censés conduire le peuple en ce moment-là, ne sont pas des bons bergers. Jésus voit une foule désespérée à la recherche de qui est Dieu. Ce Dieu qu'on ne connaît pas. Est-ce que ce serait ce Jésus? Est-ce qu'on a entendu qu'aucun homme ne parle comme cet homme? À chaque fois qu'il est là, il va vers ceux que tout le monde rejette. Il guérit les malades, il sauve les personnes. Il a des paroles de vie, des paroles d'encouragement qui brûlent dans notre cœur. Est-ce que ce serait lui la réponse à nos questions? Je veux te dire que oui, Jésus est la réponse à ta question. Peu importe ton problème, Jésus est la solution. Il voit des brebis sans berger, sans direction. À l'époque, un berger prend soin de son troupeau pour le diriger dans les verts pâturages pour qu'il mange. Un berger les nourrit, un berger aussi les protège. Lorsque Jésus voit des brebis sans berger, il les voit sans nourriture, sans direction et sans protection. Et son cœur est ému de compassion. Il dit, je veux être leur berger. Et il le dira dans les évangiles, je suis le bon berger. Je veux prendre soin de celui qui n'a pas de direction, qui cherche une vérité, qui n'a pas de protection, qui peut être rempli de doutes, rempli de mensonges. Je veux qu'il soit libéré. Aujourd'hui, Dieu est proche de toi. Même si tu penses que tu es loin de Dieu, rappelle-toi que Dieu n'est pas loin de toi. Il est aujourd'hui ici. Et si tu écoutes ce message, que je prie vraiment que le Saint-Esprit te montre combien tu es précieux pour Dieu. Parce que si Jésus est venu sur cette terre, ce n'est pas seulement pour annoncer la parole ici. C'est ultimement pour donner sa vie à la croix, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Jésus est le sacrifice parfait qui, lui, à la croix, a donné sa vie pour que tu puisses la recevoir. Son corps et son sang ont complètement été donnés pour que l'humanité reçoive le pardon de ses péchés. Tu n'es plus sous le poids de la condamnation, tu es sous maintenant l'invitation du roi des rois de dire « Tu peux rentrer dans ma présence, tu peux me connaître ici et même après ta mort, tu seras avec moi dans l'éternité. » Est-ce que ceux qui ont l'espoir peuvent applaudir notre Dieu qui nous donne une certitude de notre salut? Il est le bon berger, il veut être proche de toi aujourd'hui. Il a le même regard sur toi aujourd'hui qu'il avait à l'époque. Tu n'es pas un numéro dans la foule, au contraire. Sa compassion l'amène, on voit le texte, sa compassion l'amène à enseigner la bonne nouvelle. La première chose que Jésus fait avant de nourrir leur corps, c'est qu'il nourrit leur âme. La compassion de Jésus l'emmène à enseigner beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné la parole. Il a enseigné ce qui nous est donné dans les évangiles, la bonne nouvelle de l'évangile, que Dieu est amour, que le royaume, Jésus expliquait que le royaume des cieux est arrivé à vous. Vous qui avez été mis de côté, Dieu veut vous réinviter dans sa maison. Jésus était la bonne nouvelle. Jésus était l'image parfaite d'un Dieu d'amour qui est venu pour l'humanité. Dieu est venu, Jésus est venu et il prêchait aussi la repentance. Arrêtez de vouloir conduire votre vie selon vos propres volontés, selon vos propres désirs. Non, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu et lui est bon pour vous pardonner, pour vous conduire. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, mais Dieu est venu, il a pourvu un moyen pour que vous puissiez être sauvés et réconciliés avec lui. Jésus est venu apporter la bonne nouvelle. Il a donné une nourriture spirituelle avant de nourrir leur corps avec la multiplication des pains. C'est pour ça qu'on croit à la nécessité de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile comme on le fait ce matin. Et je ne me prétends pas être comme Jésus a prêché l'Évangile de la même manière, non, mais la même vérité et le même esprit qui m'anime est celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est pour ça que ce n'est pas mes mots qui changent, c'est l'esprit à travers mes mots qui amène une parole de vérité et la vérité libère. Est-ce que ceux qui ont été libérés peuvent applaudir et proclamer notre Seigneur ? Luc 1, verset 78 dit « Jésus est venu pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. » Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Je me souviens quelques années, alors que j'étais pasteur au niveau des adolescents, il y a un jeune homme qui est rentré pour la première fois invité par des amis. Et alors que lui venait d'une famille complètement dysfonctionnelle, il était dans plein de consommation, drogue, alcool, et malgré son jeune âge, il n'était même pas majeur, il n'avait même pas 18 ans, il avait déjà une vie tellement de souffrance. Et lorsqu'il est arrivé, il a entendu la prédication de la parole, simplement comme on le fait aujourd'hui, et que Dieu était amour, et que lui était venu, non pas pour le juger, mais pour l'accepter, pour être réconcilié avec lui. Et alors qu'il entend ce message, il fait juste répondre à l'appel de dire « Oui, moi, je veux croire qu'il y a de l'espoir dans ce nom de Jésus. » Parce que je vois que dans ce monde, il n'y a rien, même les personnes qui voudraient me sauver ne peuvent rien pour moi. Mon âme a soif. Et alors qu'il répond à l'appel, ce jeune homme-là accepte Jésus avec la simplicité. Il n'avait même pas forcément tout compris la Bible. Il avait plein de questions, encore aujourd'hui, comme moi, comme vous, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de jugement en ce moment dans vos yeux. Mais il y a quand même, il y a quelque chose qui a pris place dans son cœur. Et alors qu'il a ouvert son cœur, Jésus est venu, a fait une œuvre incroyable dans sa vie. On l'a vu, mois après année, être complètement libéré de ses addictions. Aujourd'hui, il y a quelques années, je l'ai marié, il est à l'église et il sert. Je vous parle d'un Dieu qui transforme tout pour amener son royaume plus proche. Il brille aujourd'hui au travers de toi et moi. La prédication de la parole. Le regard de Dieu aujourd'hui est un regard de compassion sur toi. Et quand tu comprends sa compassion et que tu veux le suivre, Dieu veut que tu lui fasses confiance et lui remettes ce que tu as. Et c'est la deuxième vérité de ce texte. C'est Dieu a un regard différent, non seulement sur qui tu es, mais aussi sur ce que tu as. La foule n'avait pas de quoi se nourrir. Elle était là, elle a suivi Jésus pour entendre la bonne nouvelle. Et alors qu'elle était là, après que les heures passent, la foule a faim. Et alors, les disciples, eux, n'ont pas assez à leur offrir. Et Jésus va tester leurs ressources. Alors que les disciples viennent à Jésus en disant « Renvoie la foule parce qu'ils ont faim. » En fait, on sait aussi qu'eux-mêmes avaient faim. On voit au début du texte qu'ils avaient tellement de travail qu'ils n'avaient pas le temps de manger. Alors, ils mettent un petit peu la faute sur la foule, mais eux aussi, ils avaient faim. Comme « Jésus, il faudrait les renvoyer parce qu'on a faim. » Eux, ils ont faim. Okay? On l'a tous fait, hein, n'est-ce pas ? « Seigneur, je viens pour un ami. » En fait, tu viens pour toi. Mais il y a quelque chose de fort qui prend place parce que Jésus va tester leurs ressources. Il va dire « Donnez-leur vous-même à manger. » Et là, ils avaient fait leur calcul, les disciples. Ils s'attendaient. Jésus avait toujours une parole pour venir les chambouler, les amener à une conscience plus grande. Et eux, alors qu'ils avaient fait leur calcul, ils disent, mais même avec 200 pièces d'argent qui représentent des années de salaire, même avec ça, on ne pourrait même pas nourrir tout le monde. Et c'est comme, imagine combien on va devoir dépenser pour nourrir cette foule. Ils étaient en train de dire, les besoins sont trop grands et les ressources sont trop petites. Et Marc 30, verset 38, il leur dit, « Jésus, combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondit, « 5 pains et 2 poissons. » Et on pourrait dire, mais les disciples, ils ont dû se sentir ridicules quand Jésus leur a dit, « On va nourrir une foule, ok, combien avez-vous de pains ?» Ils ont dû arriver avec leurs 5 pains, 2 poissons. Et si vous savez, dans les autres évangiles, on a des éléments complémentaires. On sait que c'était un petit garçon à l'époque qui avait son lunch sans doute et qui l'a donné aux disciples. Et les disciples sont arrivés à Jésus, j'imagine leur tête. C'est ça qu'on a. Mais c'est du bon pain, il est bio. Il est sans gluten et les poissons sont pêchés de la veille. J'imagine un peu quand ils se sentirent ridicules un petit peu, mais en même temps, Jésus leur dit, « Qu'est-ce que vous avez ? Amenez-le-moi. » Et alors que le texte nous dit qu'il y avait 5 000 personnes, à cette époque-là, on ne comptait que les hommes, on ne comptait pas les familles, les femmes et les enfants. Alors ça veut dire que les commentateurs se disent qu'il y avait au moins 15 000 personnes. Ça fait beaucoup de monde pour 5 pains et 2 poissons, vous êtes d'accord ? Peu importe la longueur du pain, ça ne devait pas être assez suffisant. Et alors que Jésus est là, c'est fou parce que Jésus va prendre le peu qu'ils ont d'un petit garçon qui n'est même pas compté dans les 5 000. quelque chose d'insignifiant par quelqu'un qui n'est même pas compté. Et Jésus va le prendre, et alors que les disciples le voient comme c'est tellement peu, c'est tellement pas assez, Jésus va le prendre, et qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va le prendre et il va commencer à faire une prière de bénédiction. Il va commencer à bénir le peu qu'ils ont, et c'est à ce moment-là que le miracle prend place. Ce texte nous montre que ce n'est pas ce que tu as qui est important, mais c'est à qui tu le remets pour que le miracle prenne une place. Est-ce que ton couple, en ce moment, tu dis, mais c'est pas assez, c'est trop peu. Il n'y a plus assez d'amour, il n'y a plus assez d'engagement, je sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'en ce moment, tu es en train de maudire ce que tu as, au lieu de faire comme Jésus a fait, de bénir en disant, c'est peu, c'est pas assez, mais si je le remets entre les mains de Jésus, mais c'est là que ça peut prendre du sens. Est-ce qu'en ce moment, les ressources pour nourrir ta famille, tu dis, mais j'ai pas assez, c'est trop peu. Et au lieu de bénir et de remercier Dieu pour le peu que tu as, tu es en train de maudire en disant, hey, c'est rien, c'est insignifiant, c'est ridicule même. Jésus n'a pas maudit les 5 pains de poisson en disant, c'est juste ça que vous avez. Je vous avais demandé de prendre les choses pour nourrir une multitude, c'est ça que vous avez. Non, il savait que leurs ressources étaient trop peu nombreuses. Et même s'il y avait eu 200 pièces d'argent, et waouh, le mien, on n'aurait même pas eu, ça aurait même pas suffi pour nourrir avec ça. Toi, tu peux rien faire. Et à toi, tout est un Dieu de miracles qui multiplie ce que tu lui donnes. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui a de l'espoir quand tu lui remets quelque chose qui est insignifiant? Ne néglige pas ce que tu as. Souvent, on voit ce qui nous manque au lieu de regarder ce que nous pouvons donner à Dieu. Même si c'est insignifiant, même si c'est comme tellement pas assez. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu viens prier, juste, tu ne sais même pas comment prier, comment faire une belle prière. Tu n'as même pas d'ordre du jour. Comment on commence? Est-ce qu'on dit le Dieu de... Tu ne sais même pas comment faire. Vous savez quoi? La parole de Dieu nous dit que Dieu entend même le cri de nos larmes. Ça veut dire que même dans tes soupirs inexprimables, si ton cœur crie à Dieu, c'est bien assez pour que Dieu l'entende des cieux et qu'il réponde à ta prière. Et oui, c'est insignifiant, c'est ridicule. Peut-être les autres autour de toi regardent ta prière en disant, hey, comment? Fais un petit effort. Ton effort est que tu le mets entre les mains de Dieu en disant, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être très peu, mais Jésus qui est là, c'est lui qui fait le miracle pour nourrir une multitude. Ne maudis pas ce que tu as, au contraire, bénis. Jésus n'a pas maudit, il n'a pas commencé à regarder ça en disant, mais c'est ridicule ce que vous avez, au contraire. Fais-moi confiance, Jésus te dit aujourd'hui. Fais-moi confiance avec ce que tu as. Les disciples ont dit, on n'a pas assez. Ça ne suffira jamais. Il y a trop de besoins, il n'y a pas assez de ressources. On dirait qu'on les entendrait se plaindre aujourd'hui encore de « Mais pourquoi ils vont fermer le pont-tunnel encore 3 ans ?» C'est quand même, Les disciples avaient les mêmes pensées que vous et moi. Ils étaient très humains. Mais Jésus vient et il commence à changer leur façon de penser. Écoute-moi bien aujourd'hui, quand tu dis « j'ai pas assez », Jésus te répond « je suis assez ». Quand tu dis « j'ai pas de ressources », Jésus répond « je suis ta source ». Quand tu dis « ça ne suffira jamais », Jésus répond « c'est moi qui pourvois à tous tes besoins ». Et ceux qui l'ont déjà vécu, expérimenté, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins? Remets ta vie entre les mains de Dieu. Remets ta vie à Jésus aujourd'hui, même si tu dis « il n'y a plus rien ». C'est pas assez, c'est trop peu. Remets-lui et il va faire un miracle. Parce que sa volonté, ce n'est pas que tu subisses cette vie, c'est que peu importe tes circonstances, tu reçoives la paix qui surpasse toute intelligence. C'est que tu reçoives la joie, la grâce, l'assurance de ton salut, que cette vie ici, oui, est importante, mais ultimement, c'est pour que je rencontre mon Sauveur ici, pour que je sois avec lui dans l'éternité. Et c'est ça notre espoir aujourd'hui. Jésus veut se servir de ce que tu as pour montrer sa gloire autour de toi. Alors que je parlais avec une musicienne, Esther, qui joue du piano ici à Nouvelle Vie, alors que je lui parlais, elle me disait, ça fait des années que je voulais comme prendre un cours à l'Institut de théologie pour la francophonie et puis commencer à étudier la parole de Dieu, étudier la Bible. Mais elle est dans un emploi, ses études lui prennent tout son temps. Elle est aujourd'hui coordonnatrice pour la facturation du département de propriété intellectuelle d'une firme d'avocats. Et elle dit, ouais, quand même, c'est un... Juste en le lisant, je dis, non, je vais copier-coller parce que c'est un peu trop... Et elle dit, ça fait des années que je vais sur le site d'ITF en me disant, je prendrais bien un cours. Je prendrais bien un cours de counseling ou d'études bibliques pour approfondir ma relation avec Dieu. Mais non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez. J'ai d'autres, les ressources que j'ai sont peut-être limitées. Et puis, à chaque fois, elle entendait Dieu l'appeler à dire, mais viens, fais un pas de foi avec le peu que tu as. Et elle dit... Alors que je parlais avec ma mère m'a dit, mais il faut vraiment que tu le fasses. Si Dieu t'appelle, donne-lui. Et puis, commence peut-être même avec un cours. Et elle dit, alors que ça l'a travaillé dans son cœur en disant, mais à quoi ça va servir un cours et puis tout ça, et puis si jamais je veux un certificat ou un bac, il faut que j'en prenne beaucoup. En fait, le peu qu'elle avait et la volonté qu'elle avait pour servir Dieu, pour apprendre, pour avancer dans sa relation avec Dieu. Elle dit, j'ai commencé il y a 2 ans, ça fait 2 ans maintenant que j'ai commencé le certificat en études bibliques à temps partiel, et je ne le regrette pas. Je ne sais toujours pas comment je pourrais mettre à profit ces nouvelles connaissances, ni ce que Dieu veut que je fasse de ce certificat. Mais je peux honnêtement dire qu'en obéissant à ce qu'il a mis sur mon cœur, je me sens plus sereine, libérée. C'est pas facile, retrouver la discipline d'étudier, travailler à temps plein, et en plus du ministère de louange et toutes les autres obligations que je dois respecter. Mais j'y parviens grâce à Dieu. Il y a une 20aine d'années, la peur et mon besoin de contrôle sur mon avenir professionnel et financier m'ont poussé à ignorer ce désir de faire des études bibliques. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour suivre le chemin qu'il trace pour nous. Elle place le peu qu'elle a entre les mains de Dieu, et Dieu est en train de multiplier et de faire un miracle. La troisième chose que Dieu nous montre, qu'il a un regard différent dans cette situation et pour nos vies aujourd'hui, c'est non seulement sur qui nous sommes, sur ce que nous avons, mais aussi sur ce que nous faisons. Dieu a un regard différent sur ce que tu fais. Marc 6, 41 dit, « Jésus prit, rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. » Ce texte m'a frappé parce que je me suis dit, c'est incroyable, le miracle prend place alors que les disciples amènent juste ce qu'ils ont trouvé dans la foule. Et puis là, avec le peu de ressources, Jésus bénit, il fait un miracle, et ce miracle-là va nourrir plus de 15 000 personnes. Et il va même y avoir un surplus. Le texte nous dit qu'ils vont repartir avec 12 paniers pleins de nourriture. C'est fort parce qu'ils étaient 12 disciples et ils repartent avec 12 paniers pleins. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le temps de manger au début, mais une fois qu'ils vont expérimenter le miracle, c'est qu'ils vont être rassasiés pour encore plusieurs jours. C'est que quand tu mets ce que tu as au service de Dieu, qu'il le multiplie, les autres autour de toi sont bénis et toi, tu es rempli de joie. Toi, tu es rassasié. Jésus, à ce moment-là, fait le miracle que lui seul pouvait faire. Aucun disciple n'aurait essayé de dire « Ok, alors on va essayer de multiplier du pain. » Non, impossible. Il y a seule la puissance et le nom de Jésus qui a une puissance pour faire un miracle à ce moment-là. Jésus fait le miracle que seul lui peut faire. Par contre, Jésus rompt le pain et il le donne aux disciples pour qu'eux le distribuent. Jésus fait le miracle, mais il veut que tu le distribues. C'est fort ce texte parce que je le voyais alors que je l'ai entendu toute ma vie ce texte. Et puis c'est un texte fort, mais alors que je l'étudiais, je me disais, Dieu ne veut pas seulement que je sois spectateur de ce qu'il fait, il veut que je sois acteur. Dieu a choisi d'être partenaire avec l'humanité, non seulement pour la sauver, mais aussi pour qu'elle puisse travailler avec lui en collaboration pour briller dans ce monde. Jésus aurait pu faire le miracle et faire en sorte que tout le monde, à ce moment-là, reçoive du pain dans ses mains. Mais vous savez, il n'a pas fait comme ça. Il a choisi d'utiliser des hommes, des femmes, des gens autour. Et puis, je vous le dis, pour 15 000 personnes, les disciples n'étaient pas juste 12. Ils ont dû prendre du monde. « Hé, veux-tu venir avec moi ? Jacob, hé, Caleb, viens, aide-nous à distribuer. » Ils ont mis en place un système pour juste dire, il y a le miracle qui est en train de prendre place. On ne sait pas pourquoi. À chaque fois qu'on vient prendre un panier, il est plein. On le ramène, il est vide. On repart, il est plein. Il y a un miracle qui est en train de se faire. Et Jésus n'a pas distribué rien. Il a fait le miracle, il l'a donné aux disciples pour qu'eux le distribuent. Qu'est-ce que Dieu t'a donné aujourd'hui que tu gardes pour toi alors qu'il veut que tu le distribues? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie qui a changé ton humanité, changé ton éternité, mais que tu gardes pour toi alors que Jésus dit « Le témoignage que je t'ai donné, c'est pour que tu le distribues, c'est pour que tu le répandes autour de toi. » Il y a des gens en ce moment qui ont une faim spirituelle, mais tu es à côté d'eux. Et Jésus, oui, il veut les sauver, mais il veut les sauver au travers de ta vie, au travers de ton ministère, au travers de ton témoignage. Mais tu dis « Mais j'ai rien à dire, c'est trop peu, j'ai grandi dans l'église, j'ai été sauvé par grâce, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Juste le peu que tu vas à dire au travers du Saint-Esprit et du nom de Jésus, ça va toucher les cœurs et c'est ça qui va transformer. Tes paroles pourront rien faire, mais le Saint-Esprit à travers tes paroles pourra changer quelque chose. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui veut se servir de nous? Quel privilège! Ces disciples-là ont été au premier rang d'un des miracles les plus incroyables des évangiles. Le plan de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que tu comprennes son amour, que tu reçoives son pardon, que tu vives le miracle et que tu partages cette bonne nouvelle autour de toi. Jésus a donné aux disciples, et c'est eux qui ont fait la distribution. J'aime ce texte parce qu'il nous donne des éléments, et puis dans la Bible, il n'y a aucun détail qui est insignifiant, aucun détail qui n'a pas son importance. La Bible dit, au verset 39, « Alors il leur ordonna, Jésus leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et il prit 5 pains et 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. C'est fort parce que Jésus, avant de faire le miracle, il met une structure en place. Il met une structure en place pour aider à la distribution. Jésus est en train de mettre une structure logistique en place pour que le miracle soit distribué de manière la plus fluide possible. C'est fort parce que, alors qu'ils étaient en rangée de 50 et 200, ça facilitait le service. Ça assurait à tout le monde d'avoir leur part et ça permettait de compter le nombre exact. Jésus est en train de nous montrer qu'il a mis en place un système logistique très terre à terre avant de faire un miracle très surnaturel, ce qui nous montre que la logique fonctionne très bien avec la foi. C'est pour ça que je ne crois pas à l'église désorganisée. C'est pour ça que je crois que les structures qu'on est en train de mettre ici dans les églises locales et passer à 2 réunions à Châteauguay, parce que le miracle est en train de prendre place et il faut une structure bien établie pour que quand quelqu'un arrive de l'extérieur, il puisse avoir une place pour s'asseoir sur l'herbe verte, bien confortable. Parce que si tu es là, Dieu avait un rendez-vous pour toi et il veut montrer combien il a de l'amour pour toi, combien tu es précieux pour lui et combien il y a des plans pour toi pour que dans cette vie, non seulement tu reçoives, mais tu partages. C'est pour ça qu'on veut une église où tu puisses t'impliquer pour être avec nous, pour faire en sorte que la distribution se passe bien. Une église désorganisée, c'est comme on laisse ça au spirituel et puis on verra ce qui se passe. Non. Il n'y a rien qui se passe dans le chaos. La première chose que le Saint-Esprit vient faire dans cette parole en Genèse 1, c'est qu'il vient mettre de l'ordre dans le chaos. C'est pour ça qu'on croit que la logistique très terre à terre, les structures bien établies, sont pas du tout incompatibles avec le surnaturel. Au contraire, il y a une structure de mise en place pour que le miracle puisse bien être partagé. Est-ce qu'on pourrait applaudir ce que Dieu fait dans l'église locale partout au Québec? Si tu as reçu, Dieu te demande de le donner, de le partager, de briller. Alors que les musiciens vont commencer à jouer, j'arrive au terme de cette prédication. 1 Pierre 4:10 nous dit, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Est-ce que ça fait des années que Dieu a touché ton cœur, changé ta vie complète? Et ça fait des années que tu as arrêté de témoigner? T'as arrêté de partager autour de toi ce feu qui avait changé ta vie. Est-ce qu'en ce moment, tu t'es refroidi et Dieu veut dire aujourd'hui, le Dieu que tu as connu est peut-être aujourd'hui le Dieu que tu ne reconnais plus. Et le regard sur toi aujourd'hui est dire, hey, je veux te redonner ce que tu as perdu, ce que la vie t'a volé, ce que la tristesse t'a comme fait douter de moi. Aujourd'hui, je veux me révéler à toi. Mon regard sur toi est toujours un regard de compassion et même à toi peut-être. Tu dis, ça fait longtemps que j'ai connu Dieu, puis je me suis éloigné, puis maintenant je reviens, mais c'est tellement difficile. Je veux juste te rappeler que le regard de compassion que Jésus a, il ne l'a pas seulement envers ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Son regard de compassion est le même envers toi aujourd'hui, même si tu t'es éloigné. Je me souviens alors que je lisais les Évangiles, le regard de Jésus envers Pierre qui l'avait renié quelques heures avant d'être à la croix. C'est le même regard qui a sur toi. Dieu ne te condamne pas, il n'est pas fâché contre toi. Il n'est pas en train de dire, regarde ce que tu as fait, quel gâchis. Au contraire, il dit, il n'est jamais trop tard. Viens avec le peu que tu as, avec le peu qui te reste. Mais si tu me le remets entre mes mains, moi je peux faire un miracle pour que ta vie brille. Et que là, les ténèbres qui t'environnent, la lumière brille. Il n'éteint pas le lumignon qui flume. Il ne brise pas le roseau qui est en train d'être tordu. Non, au contraire, si tu es fatigué, chargé, bienvenue. Le maître est ici. Et lui, son joug est léger. Viens parce que c'est lui qui donne le repos, la vraie paix. À toi qui ne le connais pas, comme à toi qui penses trop le connaître. Et qui pense en ce moment que tu es tellement loin que Dieu, regarde, il te regarde de loin en disant, mais regarde, qu'est-ce que tu fais? Non, il t'invite à revenir aujourd'hui à sa grâce. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu qui a donné sa vie. Le prix qu'il a payé à la croix est tellement cher qu'il n'y a rien que tu pourrais faire ou il n'y a rien que tu ne pourrais pas faire qui peut te séparer de son amour. Rien, ni la mort, ni la vie ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, reçois ce cadeau, reçois la grâce, peut-être à nouveau aujourd'hui, mais reçois-le comme un cadeau. Parce que notre Dieu veut changer le cœur, la vie des êtres humains et il veut se servir de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux quelques instants alors que je veux prier? En terminant ce message. Et ce message est très simple et la multiplication des pains est tellement un message qu'on a déjà entendu. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui, quand tu n'es pas assez, toi, quand tu n'es pas assez, je te suffis. Quand tu ne penses ne pas avoir assez, ne t'inquiète pas, je vais pourvoir. Quand tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui de ta vie, il dit non, t'inquiète pas, c'est moi qui t'envoie. Dieu veut que tu lui remettes tout et ta vie aujourd'hui entre ses mains. Donne-lui ta vie aujourd'hui et puis il va en faire quelque chose de magnifique, de merveilleux. Il a donné sa vie pour que tu puisses la recevoir. C'est pour ça que ta vie n'est pas appelée à vivre une vie médiocre, au contraire. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est en train de t'environner aujourd'hui autour de toi, il va te donner la force de dire non à la tentation. Il va te donner les clés pour être délivré de tes addictions, de ce qui est en train de t'éloigner de lui. Aujourd'hui, Dieu a un regard de compassion sur toi et à toi aussi qui es chez toi. Parce que notre Dieu a le regard sur chacun d'entre nous. Il connaît notre nom, il connaît ta situation et il veut complètement tout changer pour que sa gloire rayonne dans ta vie. Alors je veux faire un appel à quelqu'un peut-être qui est ici et qui dit « J'ai besoin de m'approcher de Jésus ». Jésus est le bon berger et son seul désir était proche de ceux qui étaient là. Et il veut être proche de toi aujourd'hui. Non seulement être proche de toi, mais vivre en toi. La Bible dit que celui qui confesse le nom de Jésus et qui l'accepte comme le sauveur de sa vie et comme le Seigneur qui va suivre et obéir à ses commandements, le Saint-Esprit de Dieu vient vivre dans ton cœur. Et ton cœur est transformé, régénéré. Et ça nous paraît impossible, ça nous paraît juste surnaturel, mais oui, c'est ça que Jésus fait. C'est le miracle qui prend place dans notre vie. Le regard de Dieu sur toi est différent de tout ce que les gens peuvent avoir comme regard autour de toi. Lui, il t'aime, il te connaît, il ne te juge pas et il t'appelle à revenir à lui. Alors s'il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui dit « Moi, j'ai jamais accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur et que tu aimerais le faire. » Ou toi, peut-être, ça fait des années que tu l'as accepté, mais aujourd'hui, tu dis « Je veux revenir. » Alors que tous les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, il n'y a personne qui regarde, ce n'est pas un spectacle, mais entre toi et Dieu, fais juste lever la main en disant « Oui, je veux accepter cette main tendue. Je veux revenir à Dieu. » Merci pour les mains qui se lèvent. Lève ta main pour dire « Oui, Seigneur, j'ai encore plein de questions, j'ai encore plein de doutes, j'ai pas assez, mais je te le remets entre tes mains. Et c'est toi qui vas faire le miracle avec ma vie. » Merci pour les mains qui se lèvent. Jésus voit vos cœurs. Et c'est un moment d'éternité en ce moment. Et même à toi qui es chez toi en ligne en ce moment, fais cette prière. « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour qui je suis, pour ce que j'ai fait. Mais j'accepte ton pardon car à la croix, tu as tout donné pour que je sois libre. Et tu n'as pas changé, tu étais le même hier. » Tu es le même aujourd'hui et tu seras le même pour toujours. Alors je crois en tes promesses. Je crois que si je confesse que je suis pécheur et que je te demande pardon, je reçois le pardon de Dieu. Seigneur, entends ma prière. Je ne suis pas parfait, mais tu es parfait. Amène-moi vers un chemin qui va être un chemin de perfectionnement. Un chemin qui va changer ma vie, qui va me délivrer de ce qui me retient captif et qui va m'amener dans tes bras d'amour. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Et tout le monde dit un grand et un dernier Amen. Est-ce qu'on pourrait applaudir ce que Dieu a fait ce matin ?